Art, Culture et Patrimoine.
Une émission présentée par Christelle de Limerville.
Vous êtes sur Fidélité Mayenne. Pour notre émission Patrimoine Sacré, nous sommes dans l'église de Montaudun, face à la grande verrière du XVIe siècle qui a été récemment restaurée et qui évoque l'arbre de Jessé, en quelque sorte la genèse de Jésus-Christ. Marie-Thérèse Garcia vient nous commenter ce vitrail qu'elle a longuement étudié sous tous ses aspects. Marie-Thérèse, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Nous sommes devant ce vitrail de 4,50 m de haut sur 2,90 m de large. Donc c'est une très belle verrière de taille. Est-ce que vous pourriez nous la décrire un peu pour nos auditeurs? On va essayer de se faire une idée colorée de cette belle œuvre.
Oui, alors elle prend tout le mur et la transparence et la lumière jouent avec toutes les couleurs. Elles sont très riches. Nous sommes à la Renaissance sous François Ier. Les maîtres verriers deviennent, pour ainsi dire, des peintres. Ils ont trouvé beaucoup d'autres méthodes pour donner de la lumière et de la couleur. Ils vont employer à la fois la coloration dans la masse du verre, mais ils vont employer aussi ce qu'on appelle l'émail, qui va se positionner sur le verre comme une peinture et qui va permettre de mélanger les couleurs, comme le peintre le ferait. Et là, on a des personnages habillés avec des costumes de la Renaissance, très riches. Et les costumes prennent une place dans ce vitrail de Jessé, une place importante. Il y a des drapés, il y a des couleurs somptueuses, on a des violets, des rouges dégradés sur plusieurs teintes, on a des bleus somptueux, du plus pâle au plus foncé. On a aussi un emploi du jaune d'argent qui donne toute sa lumière dorée à ce vitrail. Et on a aussi derrière Jessé, que l'on trouve là, assis sur le trône, il est là, identifié comme un patriarche. L'arbre de Jessé au XVIe siècle change de forme. Jessé n'apparaît plus couché, il est là, assis, avec la tête penchée, dans son songe, et il est représenté vraiment comme un patriarche. Derrière lui, l'arbre qui monte, à peine visible sur cet arbre de Jessé. Il faut vraiment le reconnaître au milieu de ces personnages. Il y a des branches, des feuilles, mais à peine perceptibles. Et l'arbre monte jusqu'à la Vierge Marie qui est représentée là en haut avec l'enfant. Et derrière l'arbre de Jessé, on voit une grande plaque de verre coloré, couleur émeraude, parfaitement travaillée, en forme de tente. Et je vous dis qu'il monte avec des colorations, des feuilles, des grandes feuilles qui entourent les branches où sont assis les prophètes et les rois. Et on arrive à la Vierge, tout à fait en haut, puisque ce vitrail-là se lit de bas en haut, avec une Vierge assise représentant l'enfant dans ses bras.
Nous voyons le fameux ancêtre de David, Salomon et donc du Christ, d'après la généalogie que saint Matthieu nous offre en prologue de son évangile. C'est issu de là l'image de l'arbre de Jessé. Nous voyons donc Jessé comme un vieillard, tout en bas du vitrail, légèrement à gauche, pas tout à fait centré. Et je remarque, en l'observant avec vous, Marie-Thérèse, qu'il enlace, que Jessé, tout en dormant, enlace un arbre, qui est l'arbre généalogique, alors que souvent au XIIe ou au XIIIe siècle, on voyait l'arbre de Jessé sortir directement du ventre de Jessé allongé. Il y a aussi, vous me le disiez tout à l'heure, une notion d'Ancien et de Nouveau Testament dans ce vitrail. Vous pouvez nous en parler?
Eh bien oui, si on regarde le bas du vitrail, à côté du trône de Jessé se trouve un ouvrage relié qui est fermé. Et sur notre droite, enfin à notre droite à nous en le regardant, on a saint Matthieu, très très beau, avec une robe blanche, couronnée, cerclée d'une auréole. Et à ses pieds, il y a un ange qui tient un encrier. Et on voit Matthieu étant en train d'écrire sur un livre qui va représenter le Nouveau Testament. Donc l'iconographie de l'arbre de Jessé de Montaudun parle justement de ce contexte qui va être défini entre la prophétie du l'arbre de Jessé représente la venue du Messie, et on voit bien les deux thèmes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui va débuter avec la venue du Christ.
La prophétie, c'est celle d'Isaïe, qui est représentée d'ailleurs à gauche du vitrail.
Eh bien, malheureusement, à gauche du vitrail, il a pas tout à fait été identifié, mais normalement, c'est bien sûr d'après la prophétie d'Isaïe que le patriarche de Jessé en aura de sa souche, naîtra David, et de la lignée de David naîtra bien sûr la lignée du Christ qui va aboutir avec deux rois. En haut du vitrail, on voit Marie, et à côté de Marie se trouvent de la tribu de Juda, Assia et Abia, qui sont directement liés à sa lignée. Et cette lignée d'Assia et Abia, il va naître bien sûr Élisabeth, Marie, mais Saint Jean-Baptiste. Donc l'iconographie de l'arbre de Jessé de Montaudin est très importante au niveau de l'image qu'on veut transmettre et de la foi qu'il doit transmettre.
Il y a certains personnages qui ont un phylactère à côté d'eux, une espèce de drapeau brodé, où on voit encore quelques restes de lettres, comme Salomon ou Jonathan, Ézéchias aussi. Comment peut-on reconnaître un roi d'un prophète dans cette généalogie? Il y a un grand nombre de personnages quand même.
Comme il est fait pour des personnes qui ne sont pas forcément lettrées, ils ont été identifiés de deux sortes. Les prophètes ont un turban, très beau turban de couleur, et les rois, notamment les rois qui sont des guerriers et qui ont combattu pour le royaume de Jérusalem ou de Juda ou enfin, la tribu d'Israël, est représenté avec les casques. Puis nous avons un mélange. Salomon, par exemple, va avoir les deux. On va représenter les rois sages à la fois avec le casque et le turban.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du contexte? Vous m'avez dit déjà que l'arbre de Jessé de Montaudin, c'est la seule représentation de ce thème iconographique en Mayenne, qu'il reste en tout cas, et l'arbre de Jessé représenté au XVIe siècle, on est dans la Renaissance. J'imagine qu'il y a un contexte historique, religieux et artistique tout à fait spécial.
L'arbre de Montaudin, il faut aussi le voir avec le contexte historique de l'époque qui est très important. Il date de 1544. Donc, on est sous François Ier, la Renaissance est très vive au niveau art, on le voit sur les costumes qui sont sur les prophètes et sur les rois, mais aussi si on voit un petit peu qui a donné le vitrail à l'église, c'est la famille de Monteclerc. La famille de Monteclerc est une famille dont la dame de Monteclerc est la dame de Montaudin, et ce sont des seigneurs qui sont proches du roi, qui font partie de l'armée et qui ont des places assez importantes, puisqu'on trouvera un Monteclerc gouverneur de Laval. Et puis, dans ce contexte où on commence à voir Luther qui va éditer ses thèses en 1517, le fait que la famille de Monteclerc fasse faire un mitrail de l'arbre de Jessé n'est pas anodin. Là, ce sont des familles proches du roi. Ils affirment par cette iconographie, d'abord leur appartenance à la religion catholique et leur fidélité au roi. Il ne faut pas oublier que le contexte français est très très difficile. En 1516, le concordat de Bologne met la situation de Rome en difficulté. Toute nomination d'évêque et d'abbé sera remise dans les mains du roi. C'est très important et le pape n'a plus son influence au niveau de l'Europe. En Angleterre, c'est pareil. Henri VIII, qui veut divorcer et dont le pape refuse d'annuler le mariage, va fonder l'église anglicane. Et à ce moment-là, ça va aussi faire un changement profond dans les mentalités. Et puis Luther, avec ses thèses, il ne faut pas oublier que Luther, à l'origine, est catholique. Et ce sont des critiques, les thèses de Luther. Par contre, en Allemagne, il va trouver une grande écoute. Et en France, on va suivre Calvin. On va arriver dans notre région, et en France notamment, bien la guerre de religion qui va durer 30 ans, qui va arriver à mettre en difficulté la royauté même, puisque ce sont les grands de ce monde qui vont tourner leur foi vers le protestantisme. Les rois français prennent peur, on va avoir des drames comme la Saint-Barthélemy, puisque les rois, à juste titre, se demandent s'ils vont pouvoir régner, eux, rois catholiques, sur les dominants de cette époque-là, qui sont pour une grande partie passés au protestantisme. Il va y avoir une lutte incroyable en France à cette époque-là, et c'est dans ce contexte que se situe l'arbre de Jessé, qui est tout au début de ce grand phénomène.
Le fait d'avoir commandé et fait réaliser cet arbre de Jessé à Montaudin à cette période de l'histoire de la France et de l'histoire de l'Église, C'est la réaffirmation de la fidélité d'une famille à son roi catholique. Ce vitrail a été réalisé à la même période que le Concile de Trente. Et il y a certainement un contexte aussi à nous décrire autour de ce concile. Et autour, notamment, vous nous avez ouvert les yeux là-dessus, de tout ce qui est art dans l'Église et peut-être aussi mobilier liturgique.
Oui, on a parlé du Concile de Trente, bien qu'il ne se rapproche pas exactement du thème de l'arbre de Jessé, parce que les dates sont très proches. L'arbre de Jessé de Montaudin est de 1544, alors que le début du Concile de Trente, Trente est une ville en Italie, va durer de 1545 à 1563, et sa place dans les églises va transformer carrément les églises. Et c'est pourquoi l'arbre de Jessé est important, c'est parce qu'on ne va plus faire de vitrail après le Concile de Trente. On va passer à l'ère des retables. Et le thème de l'arbre de Jessé, au niveau catholique, au niveau histoire de l'art, prend toute sa dimension. Et c'est pour ça que l'arbre de Jessé, qui est le seul qui a été conservé en Mayenne, a été restauré.
Au niveau de la technique du vitrail, il y a une espèce de paradoxe parce que vous nous dites qu'il y a énormément de nouvelles techniques et de modernités qui sont arrivées dans l'art du vitrail et en même temps, il y a un abandon.
C'est très complexe parce que lorsqu'on étudie l'art du vitrail qui est extrêmement intéressant, en partant par la composition du verre qui est de la silice et un tiers de silice pour deux tiers de cendre, on s'aperçoit que les techniques dans les ateliers de vitrail s'étaient reproduites de génération en génération. Et alors qu'au XVe et XVIe siècle, on arrive au maximum des techniques, là on a une découpe même au diamant, c'est la première fois qu'on va découper le verre au diamant, qu'on va passer par la maîtrise à l'absolue de la cuisson du verre et qu'on va découvrir les émaux, qui va faire que ces vitraux ressemblent de plus en plus à des tableaux, eh bien ça va pêcher par l'excès, puisqu'on va perdre petit à petit toutes les techniques du vitrail, parce que le vitrail qui, au XIIe siècle, s'apparentait à la mosaïque, se tourne vers le tableau. On va avoir des maîtres qui vont être des maîtres en peinture et non des maîtres qui vont être des verriers. On arrive à ce que les ateliers et toute la technique ne se transmet plus et ça s'est perdu. On va simplement avoir des ateliers comme on trouve des ateliers de peintres n'importe où et le vitrail, avec la magnificence qu'il a eue au XVe siècle, disparaît.
Ce qui explique quand même la beauté des visages qui sont peints, les visages du XVe, que l'on retrouve bien sûr dans l'arbre de Jessé de Montaudin, qui ressemblent à des tableaux, on dirait du Léonard de Vinci ou du Raphaël. Ce ne sont plus du tout des visages stylisés comme on voyait au XIIIe.
Oui, parce que là, on a quand même Léonard de Vinci qui est passé par là. On a la Renaissance prend en Italie une ressource dans l'art qui fait qu'on a même dans ces détails, lorsqu'on le regarde de près, l'art de Jessé de Montaudin est d'un raffinement extrême. Les barbes, les détails de visage, lorsqu'on regarde le visage de la Vierge, malgré que sur le visage de la Vierge, il faut signaler que c'est la restauration de Maître Alone qui a refait le visage. Mais pour tout le reste, pour les détails des mains, des drapés, même dans l'utilisation des grisailles sur les ombrages, tout ce qui est détail, c'est fabuleux. Vraiment, ils ont une gestuelle, ils ont des positions de visage, ils ont des expressions. C'est vraiment des tableaux à part entière et c'est très très raffiné même.
Thank you.
Vous êtes sur Fidélité Mayenne. Nous poursuivons le commentaire éclairé de Marie-Thérèse Garcia sur le grand vitrail de l'arbre de Jessé à Montaudin. Je précise qu'il y a eu une grande restauration en 1919 par les ateliers Allôme, bien connus en Mayenne, et qu'il y a quelques années, ce vitrail a été restauré pendant 2 ans, je crois, aux ateliers du Mans. Marie-Thérèse Garcia va nous parler un peu de toutes ces techniques.
Alors, le vitrail de Montaudin a fait partie des vitraux restaurés. Le fait que ce soit la seule représentation de l'arbre de Jessé a joué, bien sûr, un rôle important. Cette restauration fait partie de cette technique très, très, très moderne où on va analyser tout ce qui a pu nuire à ce vitrail. Et il a été absent de l'église de Montaudin pendant plusieurs mois, voire je pense 2-3 ans. Et c'est avec un esprit très scientifique qu'on aborde ce côté restauration, puisqu'on va analyser la matière même, on va analyser tout ce qui a pu l'abîmer, on va avoir une formation multidisciplinaire qui va être là et qui va permettre cette restauration. On va bien sûr s'attaquer aux causes, mais aussi on va, lorsqu'il a été finalisé, on va aussi s'attaquer à le mettre en place pour qu'il n'y ait plus de nuisances, c'est-à-dire que l'arbre de Jessé actuel a été déplacé à l'intérieur de l'église pour qu'il y ait à l'extérieur une protection. Et entre les deux, il y a une circulation d'air qui ne permet plus à l'humidité de se déposer, notamment la condensation, qui est une des principales causes de la détérioration des vitraux. Ce qui est très important, c'est que si les ateliers d'Allôme ont restauré et on a réajusté le verre et on a mis du plomb de sertissage, le travail actuel, c'est surtout d'enlever ces plombs de casse pour permettre une lecture beaucoup plus simple des images qu'il véhicule. Et on voit une restauration extrêmement belle, détail par détail. Par exemple, nous avons une restauration qui se situe sur l'épaule, la poitrine, la manche et la main d'Aza, qui permet vraiment une très belle lecture de ce personnage qu'on voit casqué. Et le personnage est habillé notamment avec une cape rouge et beaucoup de bleu dans diverses nuances. Et là, on retrouve parfaitement les nuances d'origine, presque un bleu d'outre-mer avec un bleu très très pâle, presque de la couleur de l'acier. Et on a des bleus d'azur, on a une très très belle nuance de ces tons-là sur le personnage d'Aza.
Et on ne les voyait pas aussi bien avant restauration, toutes ces nuances de couleurs.
Hélas, un vitrail qui est abîmé se pacifie, parce que bien sûr il y a des poussières, il y a des dégradations du verre lui-même, et notamment des lichens et des mousses qui se mettent sur des formes de petits cratères, et que ces deux végétaux vont émettre des substances qui vont dégrader. Et c'est ce qui attaque le plus profondément, puisque ce sont des petits cratères et sont des restaurations très difficiles à mener. Et le vitrail de Montaudin était parfois très très abîmé.
Donc ces mousses et ces lichens peuvent creuser des cratères même à la surface du verre.
Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à restaurer, puisque ça va jusqu'au cœur du verre. Ça fait des petits points qui noircissent. Le visage de la Vierge notamment avait été très abîmé, celui du Christ aussi. Et c'est ce qui a demandé certainement le plus, qui a dû être très difficile quand même à ôter. Il faut penser que le vitrail est une maîtrise de la lumière et que, d'après la définition de l'abbé Surgère, Dieu était lumière à l'époque, au XIIe siècle. Donc cette lumière va être une constante aussi bien pour les maîtres verriers que pour ceux qui ont fait ce vitrail, malgré que la technique change, la lumière reste et domine le vitrail.
Et à vous écouter, on s'aperçoit que le verre est vivant. Il évolue, il peut être attaqué, il y a des endroits où il a des maladies semblables à la lèpre. Et vous nous disiez, Marie-Thérèse Garcia, qu'on a trouvé deux sortes de verres à partir des cendres qui sont utilisées. Vous pouvez nous en parler?
Oui, à l'origine, le verre est fait avec des cendres de bois et des silices. Alors la proportion, c'est un tiers de silice, deux cendres de bois. Mais ce qui est important, c'est que les cendres de bois, suivant d'où elles viennent, ça va donner deux qualités de verre. Il se fait du verre avec de la cendre de hêtre et de fougère, et des verres qui vont être faits avec du sel de mer et des cendres de végétaux marins comme du goémon, et qui vont donner des verres alcalins.
Ce qui donne une très grande lisibilité à ce vitrail, une très grande clarté par rapport à des vitraux anciens qui ne sont pas encore restaurés de manière moderne, c'est en effet l'absence de tous ces petits plombs de casse qui pouvaient barrer une main, barrer un visage. Et là, donc, vous nous dites que les ateliers utilisent des colles.
Alors, ce sont des résines. Alors, le problème, c'est que les rénovations actuelles, c'est extrêmement scientifique, puisque tout ce qu'ils vont employer ne doit pas subir d'attaque et ne pas nuire au verre. Et la lecture du vitrail, bien sûr, est beaucoup plus belle maintenant, parce que ce morcellement que les plombs de casse avaient rendu nécessaire, parce que lorsqu'un verre casse, on n'avait que ce moyen à l'époque des ateliers à l'homme pour restaurer, eh bien, il y a eu une grande innovation, parce qu'on emploie des nouvelles matières qui n'existaient pas à l'époque, et on a maintenant eh bien, une jambe qui avait été, par exemple, sectionné en 3-4 avec des plans de casse, on va avoir une jambe dont on ne voit plus la différence, puisque ça va être comblé avec des résines et on va avoir le verre tel qu'il était à l'origine. Et ça, c'est très très important, surtout au niveau de la DGC qui avait subi quand même pas mal de dommages. Et bien maintenant, on restaure les verrières anciennes comme ça en ne faisant plus des copies. C'est-à-dire qu'on appelle néo-gothique, néo-ci, parce qu'on garde le plus possible l'authenticité du vitrail ou de ce qui est en train d'être restauré. Et on va certainement préférer avoir quelque chose qui reste avec quelque chose qui est abîmé, mais pour avoir vraiment quelque chose qui va être authentique. Alors qu'au XIXe siècle, on a carrément remplacé des verres et certains vitraux n'ont plus que quelques éléments de l'époque plus ancienne.
Mais alors cette restauration a dû être extrêmement longue et surtout très coûteuse. Racontez-nous un peu cette aventure.
La commune de Montaudin, exactement, à l'intérieur de l'église, a laissé des panneaux que tout un chacun peut voir et qui décrit parfaitement les restaurations et qui l'explique. Donc j'invite les personnes intéressées par l'herbe de Jessé à venir sur la commune de Montaudin, dans cette très belle église, voir à la fois l'arbre, le vitrail et voir aussi les panneaux qui sont restés. Ce que je sais, c'est qu'il en valait la peine, parce qu'autour de lui, on peut le lire de diverses manières. Il est relié à l'histoire de l'art, au patrimoine de toutes sortes, et que chacun pourra en faire une lecture d'après ce qu'il veut voir, de ce qui l'intéresse. Et c'est pour ça que, même si sa restauration a été un certain coût, il mérite sa place dans notre patrimoine et on peut dire que, étant le seul de la Mayenne, il doit être conservé.
Eh bien, merci beaucoup. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, Anne-Marie Garcia. Merci beaucoup pour vos commentaires qui ont donc illuminé, si on peut dire, mis en lumière cette verrière unique en Mayenne. Il nous reste maintenant à venir la contempler dans sa lumière naturelle cette fois-ci. Il y a une très belle phrase d'ailleurs qui illustre ce que nous venons de dire. Le paradoxe de la lumière se situe dans le fait qu'elle est à la fois matérielle et immatérielle.